Chapitre 9. Je me trouvais donc sans ombre et sans argent, mais ma poitrine était soulagée du fardeau qui l'avait oppressé, et je respirais librement. Si je n'avais pas perdu mon amour, ou si dans cette perte je m'étais cru sans reproche, je crois que j'aurais été heureux. Cependant, je ne savais que faire, et j'ignorais ce que j'allais devenir. Je visitais d'abord mes poches, où je trouvais encore quelques pièces d'or. Je les comptais et je me mis à rire. J'avais laissé mes chevaux dans la vallée, à l'auberge prochaine, mais j'avais honte d'y retourner. Au moins, fallait-il pour cela attendre le coucher du soleil, et il était à peine à son midi. Je m'étendis à l'ombre d'un arbre, et je m'endormis profondément. À travers le tissu diaphane d'un songe délicieux, je vis groupées autour de moi les plus riantes images. Je vis Mina, couronnée de fleurs, s'approcher, me sourire, se pencher vers moi et glisser comme sur les ailes du zéphyr. L'honnête Mandel, le front radieux, passa devant moi et me tendit la main. De nombreux groupes semblaient former dans le lointain des danses légères. Je reconnus plusieurs personnes. Je crus te reconnaître toi-même, mon cher Adalbert. Une vive lumière éclairait le paysage. Cependant, personne n'avait d'ombre, et ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'est que cela n'avait rien de choquant. Des chants retentissaient sous des bosquets de palmiers, tout respirait le bonheur. Je ne pouvais fixer toutes ces images furtives, je ne pouvais même les comprendre. Mais leur vue me remplissait d'une douce émotion, et je sentais que ce rêve m'enchantait. J'aurais voulu qu'il durât toujours, et en effet, longtemps après m'être réveillé, je tenais encore les yeux fermés comme pour en retenir l'impression dans mon âme. J'ouvris enfin les yeux. Le soleil était encore au ciel, mais du côté de l'Orient. J'avais dormi le reste du jour précédent et la nuit tout entière. Il me sembla que ce fut un avertissement de ne plus retourner à mon auberge. J'abandonnai sans regret tout ce que j'y possédais encore, et je résolus de suivre à pied le sentier qui, à travers de vastes forêts, serpentait sur les flancs de la montagne. Je m'abandonnai à mon destin, sans regarder en arrière, et je n'eus pas même la pensée de m'adresser à Mandel que j'avais laissé riche et sur lequel j'aurais pu compter dans ma détresse. Je me considérais sous le rapport du nouveau rôle que j'allais avoir à jouer. Mon habillement était très modeste. J'étais vêtu d'une vieille courte noire que j'avais rapportée jadis à Berlin et qui, je ne sais comment, m'était tombée sous la main le jour où j'avais quitté les bains. J'avais un bonnet de voyage sur la tête et une paire de vieilles bottes à mes pieds. Je me levai, coupai un bâton d'épine à la place même où j'étais, en mémoire de ce qui s'y était passé, et je me mis sur le champ en route. Je rencontrai dans la forêt un vieux paysan qui me salua cordialement. Je liai conversation avec lui. Je m'informais, comme le fait un voyageur curieux et à pied, d'abord du chemin, ensuite de la contrée et de ses habitants, enfin des diverses productions de ces montagnes. Il répondit à toutes mes questions en bon villageois et avec détail. Nous arrivâmes au lit d'un torrent qui avait ravagé une assez vaste étendue de la forêt. Ce large espace, éclairé par le soleil, me fit frissonner intérieurement. Je laissai passer mon compagnon devant moi, mais il s'arrêta au milieu de cette dangereuse traversée et se retourna vers moi pour me raconter l'histoire et la date du débordement dont nous voyions les traces. Il s'aperçut bientôt de ce qui me manquait et, s'interrompant dans sa narration, « Comment donc ? » dit-il, « Monsieur n'a point d'ombre ?»« Hélas, non, » répondis-je en gémissant. Je l'ai perdu, ainsi que mes cheveux et mes ongles, dans une longue et cruelle maladie. Voyez, brave homme à mon âge, quels sont les cheveux qui me sont revenus, ils sont tout blancs. Mes ongles sont encore courts et pour mon ombre, elle ne veut pas repousser. Il secoua la tête en fronçant le sourcil et répéta « Point d'ombre, point d'ombre, cela ne vaut rien. C'est une mauvaise maladie que monsieur a eue là. » Il ne reprit pas le récit qu'il avait interrompu et il me quitta sans rien dire au premier carrefour qui se présenta. Mon cœur se gonfla de nouveau, de nouvelles larmes coulèrent le long de mes joues. C'en était fait de ma sérénité. Je poursuivis tristement ma route, et je ne désirais désormais aucune société. Je me tenais tout le jour dans l'épaisseur des bois, et lorsque j'avais à traverser quelques lieux découverts, j'attendais qu'aucun regard ne pût m'y surprendre. Je cherchais le soir à m'approcher des villages où je voulais passer la nuit. Je me dirigeais sur des mines situées dans ces montagnes où j'espérais obtenir du travail sous terre. Il fallait, dans ma situation présente, songer à ma subsistance. Il fallait surtout, et je l'avais clairement reconnu, chercher dans un travail forcé quelque relâche aux sinistres pensées qui dévoraient mon âme. Deux journées de marche par un temps pluvieux où je n'avais pas le soleil à craindre m'avancèrent beaucoup sur ma route, mais ce fut aux dépens de mes bottes qui dataient du temps du comte Pierre et n'avaient pas été faites pour voyager à pied dans les montagnes. Je marchais à pieds nus, il fallait renouveler mes chaussures. Le matin du jour suivant, le ciel étant encore couvert, j'entrai, pour m'occuper de cette affaire importante, dans un bourg où l'on tenait foire, et je m'arrêtai devant une boutique où des chaussures vieilles et neuves étaient étalées. Je marchandais une paire de bottes neuves qui me convenaient parfaitement, mais le prix exorbitant que l'on me demandait m'obligea à y renoncer. Je me rabattis sur d'autres déjà portées, qui paraissaient encore bonnes et très fortes. Je conclus le marché. Le jeune garçon qui tenait la boutique et dont une longue chevelure blonde ombrageait la belle figure les remit entre mes mains après en avoir reçu le paiement et me souhaita d'un air gracieux un bon voyage. Je me chaussai de ma nouvelle emplette et je sortis du bourg dont la porte s'ouvrait du côté du nord. Absorbé dans mes pensées, je regardais à peine à mes pieds. Je songeais aux mines où j'espérais arriver le soir même et où je ne savais trop comment me présenter. Je n'avais pas encore fait 200 pas lorsque je m'aperçus que je n'étais plus dans le chemin. Je le cherchais des yeux. Je me trouvais au milieu d'une antique forêt de sapins dont la cognée semblait n'avoir jamais approché. Je pénétrai plus avant. Je ne vis plus autour de moi que des rochers stériles dont une mousse jaunâtre et aride revêtait la base et dont les sommets étaient couronnés de glace et de neige. L'air était extrêmement froid. Je regardais derrière moi. La forêt avait disparu. Je fis encore quelques pas, le silence de la mort m'environnait. Je me trouvais sur un champ de glace qui s'étendait à perte de vue autour de moi. L'air était épais, le soleil se montrait sanglant à l'horizon. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Le froid qui me gelait me força de hâter ma marche. J'entendis le bruissement éloigné des flots, encore un pas, et je fus au bord glacé d'un immense océan. Et devant moi, des troupeaux innombrables de phoques se précipitèrent en rugissant dans les eaux. Je voulus suivre cette rive. Je revis des rochers, des forêts de bouleaux et de sapins, des déserts. Je continuai un instant à courir. La chaleur devint étouffante. regardais autour de moi, j'étais au milieu de rizières et de riches cultures. Je m'assis sous l'ombre d'une plantation de mûriers, je tirai ma montre. Il n'y avait pas un quart d'heure que j'étais déjà sorti du bourg, mais je croyais rêver. Je me mordis la langue pour m'éveiller, mais je ne dormais pas. Je fermai les yeux pour rassembler mes idées. Les syllabes d'un langage qui m'était tout à fait inconnu frappèrent mon oreille. Je levai les yeux. Deux Chinois, la coupe asiatique de leur visage me forçait d'ajouter foi à leur costume, deux Chinois m'adressaient la parole avec les génuflexions usitées dans leur pays. Je me levai et reculai de deux pas. Je ne les revis plus. Le paysage avait changé, des bois avaient remplacé les rizières. Je considérais les arbres voisins, je crus reconnaître des productions de l'Asie et des Indes orientales. Je voulus m'approcher d'un de ces arbres, une jambe en avant, et tout avait encore changé. Alors, je me mis à marcher à pas comptés, comme une recrue que l'on exerce, regardant avec admiration autour de moi. De fertiles plaines, de brûlants déserts de sable, des savanes, des forêts, des montagnes couvertes de neige se déroulaient successivement et rapidement à mes regards étonnés. Je n'en pouvais plus douter. J'avais à mes pieds des bottes de 7 lieues. Chapitre 10. Un vif et profond sentiment de piété me fit tomber à genoux, et des larmes de reconnaissance coulèrent de mes yeux. Un avenir nouveau se révélait à moi. J'allais, dans le sein de la nature que j'avais toujours chérie, me dédommager de la société des hommes, tant j'étais exclu par ma faute. Toute la terre s'ouvrait devant mes yeux comme un jardin. L'étude allait être le mouvement et la force de ma vie, dont la science devenait le but. Je n'ai fait depuis ce jour que travailler, avec zèle et persévérance, à réaliser cette inspiration. Et le degré auquel j'ai approché de l'idéal a constamment été la mesure de ma propre satisfaction. Je me levai aussitôt pour prendre d'un premier regard possession du vaste champ où je me préparais à moissonner. Je me trouvais sur le haut plateau de l'Asie, et le soleil, qui peu d'heures auparavant s'était levé pour moi, s'inclinait vers son couchant. Je devançais sa course en traversant l'Asie d'Orient en Occident. J'entrais en Afrique par l'isthme de Suez, et je parcourus en différents sens ce continent dont chaque partie excitait ma curiosité. Passant en revue les antiques monuments de l'Égypte, j'aperçus près de Thèbes aux 100 portes les grottes du désert qu'habitèrent autrefois le pieux solitaire. Je me dis aussitôt, oh, ici sera ma demeure. Je choisis pour ma future habitation l'une des plus retirées, qui était à la fois spacieuse, commode et inaccessible aux chacals, et je poursuivis ma route. J'entrai en Europe par les colonnes d'Hercule, et après en avoir regardé les diverses provinces, je passai du nord de l'Asie sur les glaces polaires et gagnai le Groenland et l'Amérique. Je parcourus les deux parties du Nouveau Monde, et l'hiver qui régnait dans le sud me fit promptement retourner au Cap Horn vers les tropiques. Je m'arrêtai jusqu'à ce que le jour se levât sur l'Orient de l'Asie et repris ma course après quelques repos. Je suivis du sud au nord les deux rives de la haute chaîne de montagnes qui en forme l'arête. Je marchais avec précaution d'un sommet à un autre, sur des glaces éternelles et au milieu des feux que vomissaient les volcans, et souvent j'avais peine à respirer. Je cherchais le détroit de Bering et repassais en Asie. J'en suivis la côte orientale dans toutes ses sinuosités, examinant avec attention quelles seraient celles des îles voisines qui pourraient m'être accessibles. De la presqu'île de Malacca, mes bottes me portèrent sur les îles jusqu'à celle de Lombok. Je m'efforçais, non sans m'exposer à de grands dangers, de me frayer au travers des rochers et des écueils dont ces mers sont remplies, une route vers Bornéo et puis vers la Nouvelle-Hollande. Il fallut y renoncer. Je m'assis enfin sur le promontoire le plus avancé de l'île que j'avais pu atteindre, et tournant mes regards vers cette partie du monde qui m'était interdite, je me mis à pleurer comme devant la grille d'un cachot, d'avoir sitôt rencontré les bornes qui m'étaient prescrites. En effet, la portion de la terre la plus nécessaire à l'intelligence de l'ensemble m'était fermée, et je voyais dès l'abord le fruit de mes travaux réduit à de simples fragments. Oh, mon cher Adelbert, qu'est-ce donc que toute l'activité des hommes ? Souvent, au fort de l'hiver austral, m'élançant du Cap Horn, bravant le froid, la mer et les tempêtes, je me suis risqué avec une audace téméraire sur des glaces flottantes et j'ai cherché à m'ouvrir par le glacier polaire un passage vers la Nouvelle-Hollande, même sans m'inquiéter du retour et dû ce pays affreux se refermer sur moi comme mon tombeau. Mais en vain mes yeux n'ont point encore vu la Nouvelle-Hollande. Après ces tentatives infructueuses, je revenais toujours au promontoire de Lombok où, m'essayant la face tournée vers le levant du midi, je pleurais mon impuissance. Enfin, je m'arrachais de ce lieu et, le cœur plein de tristesse, je rentrais dans l'intérieur de l'Asie. J'en parcourus les parties que je n'avais pas encore visitées et je m'avançais vers l'Occident devançant l'aurore. J'étais avant le jour dans la Thébaïde, à la grotte que j'avais marquée la veille pour mon habitation. Dès que j'eus pris quelque repos et que le jour éclaira l'Europe, je songeais à me procurer tout ce qui m'était nécessaire. D'abord, il fallut songer au moyen d'enrayer ma chaussure vagabonde. Car j'avais éprouvé combien il était incommode d'être obligé de l'ôter chaque fois que je voulais raccourcir le pas ou examiner à loisir quelque objet voisin. Des pantoufles que je mettais par-dessus mes bottes produisirent exactement l'effet que je m'en étais promis, et je m'accoutumais plus tard à en avoir toujours deux paires sur moi, parce qu'il m'arrivait souvent d'en jeter une sans avoir le temps de la ramasser quand des lions, des hommes ou des ours m'interrompait dans mes travaux et me forçait à fuir. Ma montre, qui était excellente, pouvait, dans mes courses rapides, me servir de chronomètre. J'avais encore besoin d'un sextant, de quelques instruments de physique et de quelques livres. Je fis, pour acquérir tout cela, quelques courses dangereuses à Paris et à Londres. Un ciel couvert me favorisa. Quand le reste de mon or fut épuisé, j'apportai en paiement des dents d'éléphant que j'allais chercher dans les déserts de l'Afrique, choisissant celles dont le poids n'excédait pas mes forces. Je fus bientôt pourvu de tout ce qu'il me fallait et je commençai mon nouveau genre de vie. Je parcourais incessamment la terre en mesurant les hauteurs, en interrogeant les sources, en étudiant l'atmosphère. Tantôt, j'observais des animaux, tantôt, je recueillais des plantes ou des échantillons de roches. Je courais les tropiques au pôle d'un continent à l'autre, répétant ou variant mes expériences, rapprochant les productions des régions les plus éloignées et jamais ne me lassant de comparer. Les œufs des autruches de l'Afrique et ceux des oiseaux de mer des côtes du Nord formait avec les fruits des tropiques ma nourriture accoutumée. La nicotiane adoucissait mon sort, et l'amour de mon fidèle barbet remplaçait pour moi les deux liens auxquels je ne pouvais plus prétendre. Quand, chargé de nouveaux trésors, je revenais vers ma demeure, ces bons joyeux et ces caresses me faisaient encore doucement sentir que je n'étais pas seul dans le monde. Il fallait l'aventure que je vais raconter pour me rejeter parmi les hommes. Chapitre 11. Un jour que, sur les côtes de Norvège, mes pantoufles à mes pieds, je recueillais des lichens et des algues, je rencontrai au détour d'une falaise un ours blanc qui se mit en devoir de m'attaquer. Je voulus, pour l'éviter, jeter mes pantoufles et passer sur une île éloignée qu'une pointe de rocher à fleur d'eau s'élevant dans l'intervalle me donnait la facilité d'atteindre. Je plaçai bien le pied droit sur ce récif, mais je me précipitai de l'autre côté dans la mer parce que ma pantoufle gauche était par mégarde restée à mon pied. Le froid excessif de l'eau me saisit et j'eus peine à me sauver du danger imminent que je courais. Dès que j'eus gagné terre, je courus au plus vite vers les déserts de la Libye pour m'y sécher au soleil. Mais ces rayons brûlants auxquels je m'étais inconsidérément exposé m'incommodèrent en me donnant un plomb sur la tête. Je me rejetai d'un pas mal assuré vers le nord. Puis, cherchant par un exercice violent à me procurer quelque soulagement, je me mis à courir de toutes mes forces d'Orient en Occident et d'Occident en Orient. Je passais incessamment du jour à la nuit et de la nuit au jour, et chancelais du nord au sud et du sud au nord, à travers tous les climats d'hiver. Je ne sais combien de temps je roulais ainsi d'un côté du monde à l'autre. Une fièvre ardente embrasait mon sang. Je sentais, avec la plus extrême anxiété, mes forces et ma raison m'abandonner. Le malheur voulut encore que dans cette course désordonnée, je marchasse sur le pied de quelqu'un à qui sans doute je fis mal. Je me sentis frappé, tombé à terre, et je perdis connaissance. J'étais, lorsque je revins à moi, mollement couché dans un bon lit qui se trouvait au milieu de plusieurs autres dans une salle vaste et d'une extrême propreté. Une personne était à mon chevet. D'autres se promenaient dans la salle allant d'un lit à l'autre. Elles vinrent au mien et s'entretinrent de moi. Elles ne me nommaient que numéro 12, cependant, sur une table de marbre noir, fixée au mur en face de moi, était écrit bien distinctement mon nom, Pierre Schlemihl, en grosses lettres d'or. Je ne me trompais pas, ce n'était pas une illusion, j'en comptais toutes les lettres. Au-dessous de mon nom étaient encore deux lignes d'écriture, mais les caractères en étaient plus fins, mais j'étais encore trop faible pour les assembler. Je refermai les yeux. J'entendis prononcer distinctement et à haute voix un discours dans lequel il était question de Pierre Schlemihl, mais je n'en pouvais pas encore saisir le sens. Je vis un homme d'une figure affable et une très belle femme vêtue de noir s'approcher de mon lit. Leur physionomie ne m'était point étrangère, cependant je ne pouvais pas encore les reconnaître. Je repris des forces peu à peu. Je m'appelais numéro 12, et numéro 12 passait pour un juif à cause de sa longue barbe, mais n'en était pas pour cela traité avec moins de soin, et on paraissait ignorer qu'il eût perdu son nombre. On conservait, me dit-on, mes bottes avec le reste des effets trouvés sur moi, à mon entrée dans la maison, pour m'être scrupuleusement restitués à ma sortie. Cette maison où l'on me soignait dans ma maladie s'appelait Schlemilium. Ce que j'entendais réciter tous les jours était une exhortation à prier Dieu pour Pierre Schlemil, fondateur et bienfaiteur de l'établissement. L'homme affable que j'avais vu près de mon lit était Bendel, et la dame en deuil était Mina. Je me rétablis dans le Schlemilium sans être reconnu, et je reçus différentes informations. J'étais dans la ville natale de Bendel, où du reste de cet or jadis maudit, il avait fondé sous mon nom cet hospice dans lequel un grand nombre d'infortunés me bénissaient chaque jour. Il surveillait lui-même ce charitable établissement. Pour Mina, elle était veuve. Un malheureux procès criminel avait coûté la vie à M. Rascal et absorbé en même temps la plus grande partie de sa dot. Ses parents n'étaient plus, et elle vivait dans ce pays retiré du monde et pratiquant les œuvres de miséricorde et de charité. Elle s'entretenait un jour avec M. Bendel près du numéro 12. « Pourquoi donc, madame, lui dit-il, venez-vous si souvent vous exposer à l'air dangereux qui règne ici ? Votre sort est-il donc si amer que vous cherchiez la mort ? Non, mon respectable ami. Rendu à moi-même depuis que mes songes se sont dissipés, je suis satisfaite et ne souhaite ni ne crains plus la mort. Je contemple avec une égale sérénité le passé et l'avenir. Et ne goûtez-vous pas vous-même une secrète félicité à servir aussi pieusement que vous le faites votre ancien maître et votre ami? Oui, madame, grâce à Dieu, quelle a été notre destinée? Nous avons inconsidérément et sans y réfléchir épuisé toutes les joies et toutes les douleurs de la vie. La coupe est vide aujourd'hui. Il semblerait que le seul fruit que nous ayons recueilli de l'existence fut la prudence qui nous eût été utile d'avoir pour en fournir la carrière. Et l'on serait tenté d'attendre qu'après cette instructive répétition, la scène véritable se rouvrit devant nous. Cependant, une toute autre scène nous appelle, et nous ne regrettons pas les illusions qui nous ont trompés, dont nous avons joui et dont le souvenir nous est encore cher. J'ose espérer que, comme nous, notre vieil ami est aujourd'hui plus heureux qu'il ne l'était alors. « Je trouve en moi la même confiance, » répondit la belle veuve. Et tous deux passèrent devant mon lit et s'éloignèrent. Cet entretien m'avait profondément affecté, et je balançais en moi-même si je me ferais reconnaître ou si je partirais inconnu. Enfin, je me décidai. Je me fis donner du papier et un crayon, et je traçai ces mots. Votre vieil ami est, ainsi que vous, plus heureux qu'aujourd'hui qu'il ne l'était alors. Et s'il expie sa faute, c'est après s'être réconcilié. Puis je demandai, me trouvant assez fort, à me lever. On me donna la clé d'une petite armoire qui était au chevet de mon lit. J'y retrouvai tout ce qui m'appartenait. Je m'habillai. Je suspendis par-dessus ma courte quai noire ma boîte à botaniser, dans laquelle je retrouvais avec plaisir les lichens que j'avais recueillis sur les côtes de Norvège le jour de mon accident. Je mis mes bottes, plaçai sur mon lit le billet que j'avais préparé, et dès que les portes s'ouvrirent, j'étais loin du Schmelilum sur le chemin de la Thébaïde. Comme je suivais le long des côtes de la Syrie la route que j'avais tenue la dernière fois que je m'étais éloigné de ma demeure, j'aperçus mon barbet et mon fidèle Figaro qui venaient au-devant de moi. Cet excellent animal semblait chercher, en suivant mes traces, un maître que sans doute il avait longtemps attendu en vain. Je m'arrêtai, je l'appelai, et il accourut à moi en aboyant et en me donnant mille témoignages touchants de sa joie. Je le pris dans mes bras, car assurément il ne pouvait suivre, et je le portai jusque dans ma cellule. Je revis ce séjour avec une joie difficile à exprimer. J'y retrouvai tout en ordre. Et je repris petit à petit, et à mesure que je recouvrais mes forces, mes occupations accoutumées, mon ancien genre de vie. Mais le froid des pôles ou les hivers des zones tempérées me fut longtemps insupportable. Mon existence, mon cher Adelbert, est encore aujourd'hui la même. Mes bottes ne s'usent point, elles ne perdent rien de leur vertu, quoique la savante édition que Ticius nous a donnée de leur Rebus Gestis Policilli me l'ait d'abord fait craindre. Moi seul, je m'use avec l'âge. Mais j'ai du moins la consolation d'employer ces forces que je sens décliner à poursuivre avec persévérance le but que je me suis proposé. Tant que mes bottes m'ont porté, j'ai étudié notre globe, sa forme, sa température, ses montagnes, les variations de son atmosphère, sa force magnétique, les genres et les espèces des êtres organisés qui l'habitent. J'ai déposé les faits avec ordre et clarté dans plusieurs ouvrages, et j'ai noté en passant sur quelques feuilles volantes les résultats auxquels ils m'ont conduit et les conjectures qui se sont offertes à mon imagination. Je prendrai soin qu'avant ma mort, mes manuscrits soient remis à l'université de Berlin. Enfin, mon cher Adalbert, c'est toi que j'ai choisi pour dépositaire de ma merveilleuse histoire, dans laquelle, lorsque j'aurai disparu de dessus la terre, plusieurs de ses habitants pourront trouver encore d'inutiles leçons. Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer d'abord l'ombre, ensuite l'argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu'à la noblesse de ton être, tu n'as besoin d'aucun conseil. »